Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui du langage aux langues.
On peut tout retirer à un peuple malheureux, il est presque impossible de lui retirer sa langue. Georges Duhamel.
D'histoire. Bien avant de savoir écrire, les hommes ont commencé à parler, et c'est même par le langage qu'ils ont commencé à se distinguer des animaux qui les entouraient. De quand datent leurs premiers mots? À quoi ressemblaient-ils? Quand, comment et pourquoi est-on passé du langage aux langues que nous parlons aujourd'hui? Et quel est leur avenir? C'est une très vieille histoire, mais qui recommence toujours quand un père ou une mère se penche sur un berceau et apprennent à un enfant les premiers mots par lesquels, comme autant les plus reculés de l'histoire, un nourrisson découvre le plus vieux et le plus simple moyen de communiquer avec les autres.
Papi Poupole.
Tiens. Et on regarde. L'oiseau.
Il a vu.
L'oiseau.
Il a vu.
L'arbre.
Black.
L'arbre.
Black.
L'avion. L'écureuil. Le chat.
Le chat.
Les collines.
Les collines.
La mer. La mer.
La mer.
Mamie.
Voilà.
Voilà, c'est fini. Bravo.
Roland Breton, bonjour.
Bonjour.
C'est difficile d'apprendre à parler, découvrir le vocabulaire.
Le vocabulaire, oui, après la naissance. Mais vous savez que l'enfant apprend les sons de la langue dans le ventre de sa mère.
Alors, dans un livre sur les origines du langage et des langues, vous écrivez que quand un enfant, justement, prononce ses premiers mots, vers 10 à 11 mois à peu près, il s'exprime bien sûr avec les mots que lui apprennent ses parents, on l'a entendu, mais que cette faculté qu'il a de parler n'est pas du tout acquise, elle est innée. Le langage, dites-vous, est même une capacité unique dans le règne animal. C'est-à-dire que c'est ça qui nous distingue des animaux.
Oui, le langage articulé, c'est sûr. Certains animaux émettent des sons qui ont un sens. Mais ils ont un registre de 10, 15, 20, 30, mettons, la baleine, etc. Bon, on sait que ça veut dire quelque chose. Et qu'il y a des langues des baleines. Par exemple, des baleines de l'océan Indien n'ont pas exactement les mêmes sons que celles de l'Atlantique, etc. Bon, mais ce sont donc des langues auditives, vocales, mais qui ont un registre, effectivement, qui n'est pas la centaine ou les milliers de mots de l'homme. Ça, aucun animal ne peut s'en approcher. Et les tentatives récentes des Américains pour apprendre des mots aux singes montrent qu'on peut leur enseigner des éléments du langage, mais pas le langage, et qu'ils ne peuvent pas le transmettre.
Alors, Roland Breton, est-ce qu'on a une idée de quand, parce qu'on sait de quand date l'écriture, hein, environ 3000 ans, c'était la naissance de l'histoire, justement, puisqu'on l'écrivait, est-ce qu'on a en revanche une idée de l'apparition, justement, du langage, hein, quand est-ce qu'il a commencé à parler?
Alors, on pense maintenant que c'est le passage, et que c'était certainement un élément déterminant du passage de l'Homo sapiens de Néandertal à Cro-Magnon, c'est-à-dire à l'Homo sapiens sapiens, à nous-mêmes, n'est-ce pas? Et on pense que c'est vers 100 000 ans d'ici où le fait que certains hommes pouvaient parler leur donnait une supériorité sur ceux qui ne pouvaient pas parler. Pourquoi ne pouvaient-ils pas parler? On pense, et c'est là justement où on va faire sans doute des découvertes encore, que ça tient à la structure du pharynx, du larynx et des cordes vocales, n'est-ce pas? Et que... Mais c'est pas facile à prouver parce que autant d'après le squelette on peut voir ce que sont les os différents, mais tout ce qui s'est évanoui, éteint et dissous dans la nature, c'est difficile à reconstituer. Mais c'est à ce moment-là certainement que est apparu un langage articulé divers. L'Homo sapiens Néandertalensis, le premier Homo sapiens, émettait des sons, ça c'est sûr. sûr qu'il y avait un sens. On le pense, mais on n'en a aucune trace. Mais on pense que la supériorité de nous, de l'homme moderne, c'est d'avoir élaboré peu à peu, n'est-ce pas, un langage beaucoup plus souple, beaucoup plus étendu que celui de son prédécesseur.
Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblait le langage?
Ah non, ça non. On peut pas. Ça a commencé par des cris, des borgoirismes, des... On reconstitue ça, mais c'est des choses qu'on ne peut que reconstituer par imagination, parce qu'on n'en aura jamais aucune trace.
Alors c'était peut-être un langage unique hein, pour tous les hommes, celui, dit la Bible, que l'on parlait dans une célèbre tour hein, élevée par Nemrod, le premier tyran de l'histoire, et dont Dieu a empêché la construction pour punir les hommes de leur orgueil.
Le Seigneur descendit pour voir la tour que les hommes avaient bâtie. Et Dieu dit, voici que tous forment un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise. S'ils commencent de cette façon, ils s'imagineront bientôt qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. On nomma la tour Babel, car à cause d'elle, Dieu confondit le langage de tous les habitants du monde, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre.
Quoi, qu'est-ce que tu dis? Prends pour le fou, il a perdu l'esprit. Me crains-tu de la langue de ton roi, en baragouinant comme un singe devant moi?
Vayeir hol haaretz sva echad udvarim
achad. Todo el mundo era del mismo lenguaje.
Por toda la tierra era un lago solo udvarim.
Arantan deta dire fannuna
le sue. Tout le monde se servait du même langage et des mêmes mots.
Roland Breton, on ne peut pas parler des langues, bien sûr, sans évoquer le mythe de la tour de Babel. C'est à ce moment-là que les langues se seraient distinguées les unes des autres, qu'elles seraient même nées. On passe du langage aux langues.
Oui, mais là, c'est évidemment un joli mythe, c'est une image, mais ça ne correspond pas à ce qu'on connaît de Babylone, qui est Babel, et de l'Antiquité lointaine, où on sait très bien qu'il y avait le Sumérien, l'Élamite, l'Assyro-Babylonien, etc., qui est devenu l'Acadien, mais il y avait déjà pas mal de langues parlées dans ce secteur, et de gens qui arrivaient à Babylone, c'est sûr, et que dans le reste du monde, il y avait d'autres langues encore beaucoup plus différentes que celles-ci.
Mais comment les langues se sont elles finalement distinguées les unes des autres? Je suppose qu'à l'origine, les hommes devaient parler à peu près le même langage, et puis voilà, les langues apparaissent. Et à quoi ça correspond?
Alors là, on sort un peu du domaine de la science, et de la science historique ou de la science génétique, etc., mais, ou linguistique, mais on peut imaginer, n'est-ce pas, que le langage n'est pas apparu en un endroit donné, parce que les hommes n'étaient pas... Quand le langage est apparu, les hommes étaient déjà dispersés entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Donc, s'ils sont arrivés au langage, ils n'ont pas pu élaborer un même code d'un bout à l'autre du monde. L'homme parlant serait apparu dans un endroit précis et se serait ensuite répandu dans le monde. Là, on peut dire qu'il y aurait peut-être à l'origine une langue unique. Mais comme c'est pas le cas, que la langue est apparue un peu partout, on imagine mal qu'il y ait une origine commune. Et ce qu'on sait, c'est que dans l'histoire ensuite et dans la préhistoire, on sait très bien que de grandes familles de langues sont apparues très tôt. Donc si à l'origine de ces familles il y avait des familles encore plus anciennes et qui en avaient qu'une, ça c'est encore du mythe.
Non, mais oui, cela dit, comment est-ce qu'on peut définir justement une langue, hein? Vous écrivez justement Roland Breton que non seulement c'est évidemment un moyen de communiquer, mais c'est aussi le signe d'une appartenance à une société, à une nation. Même est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui définit une nation, c'est sa langue?
Ah oui, la plupart ont voulu se définir ainsi, et à l'origine oui, la nation ce sont ceux qui sont nés ensemble, donc en parlant la même langue. Mais ça aussi, c'est une transposition historique et d'une réalité linguistique à une réalité politique. Mais les deux sont liés, c'est vrai, il y a toujours un effet de retour, et les nations ont voulu se donner une langue, et toutes ont voulu s'asseoir sur cette expression commune. Ça, c'est sûr.
Et toutes les nations aussi ont voulu, en tout cas tous les États, parce qu'il y a des États multilingues, hein,
oui,
qui ne sont pas nécessairement des nations. Est-ce qu'on peut dire que les Belges, c'est être belge, c'est une nationalité, ou être suisse, alors qu'on parle plusieurs langues officielles?
Oui. Alors les Suisses, c'est clair, ce sont des petits cantons qui se rebellaient contre la dynastie de Habsbourg et qui ont fait une confédération. Ils ont lutté pour leur indépendance. Et au début, c'était que des Allemands, n'est-ce pas, que des germanophones. Et ensuite, se sont liés à eux, des francophones et d'autres, n'est-ce pas. Bon, ça, c'est oui. La Belgique, je veux pas dire de mal, mais Victor Hugo l'avait dit, c'est une création de l'Angleterre. C'est-à-dire que on a empêché les Belges de se rattacher à la France, donc on a créé la Belgique. Bon, mais évidemment, il n'y a pas une langue au départ. Apparemment, il y avait le français qui était prépondérant, même en Flandre à ce moment-là. Mais les États multilingues sont, enfin, expressément multilingues, parce que on sait bien que dans l'histoire, et encore maintenant, dans la plupart des États, il y a plusieurs langues autochtones. Mais qui s'affirment multilingues, il y en a peu. Et dont la Belgique, dont la Suisse, le Canada, etc.
Alors d'autres États, en revanche, se sont construits en détruisant la langue des autres, comme la France à l'époque de Louis XIV, quand Madame de Maintenon avait créé l'école de Saint-Cyr pour accueillir des jeunes filles venues de toutes les régions du royaume.
Alors, mademoiselle, quel est votre nom?
Voulez-vous bien me dire votre nom?
Marthe d'Absolu de Gabastou. Hirde de Renaud Thérèse de Montagne et de Yann d'Absolu de Gabastou. Métis d'un an d'Absolu, tête métis de Bernatou d'Absolu.
Mon père me sait que seul genre de condamné.
Qu'est-ce que c'est?
Mademoiselle, bientôt vous parlerez toute la même langue. Il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume.
Iri.
Cela fait un mois que je suis ici. J'apprends le français que je ne savais pas. Et j'oublie le patois que je savais. Répétez.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui du langage ou langue.
Et c'était bien sûr l'alphabet de Mozart qui était précédé donc par cette scène à l'école de Saint-Cyr, Roland Breton, les petites filles venues de toutes les provinces de France et auxquelles on apprend le français. Qu'est-ce qui fait que les États ont peur des patois et au point de vouloir justement les faire disparaître?
Parce que c'est une entrave à l'unité de pensée et d'obéissance et de communication que chaque État tente à instaurer. Alors, aucun État ne dorlote ses minorités, refuse même de les voir et essaye de les annihiler d'une façon ou d'une autre. Et surtout, par l'expression orale et écrite.
Vous parlez même de linguicide. Hein,
Oui. Il y a des entreprises délibérées de linguicide.
Comment peut-on définir ce qui distingue justement la langue du patois, du dialecte? J'ai vu dans votre livre une jolie formule de Lyautey. Qu'est-ce qu'une langue? C'est un dialecte qui a une armée.
Oui. Eh ben oui, c'est vrai. Surtout en France, n'est-ce pas? Là, nous sommes caractéristiques du mépris de certaines formes de parler et nous avons inventé le mot patois. Le mot patois, on a cru que ça venait de pater, le langage du père. En fait, c'est comme patauger, pato. C'est assimiler ceux qui parlent le patois à des animaux qui pataugent. Oui. Bon. Et on affuble toutes les langues, dialectes, etc., formes vocales d'expression, un patois en France et ailleurs, parce que c'est un signe prétendu d'infériorité. Mais ça, c'est propre aux Français comme exagération, mais ça se trouve partout.
Et ça explique aussi leur disparition, hein, quand vous parlez de linguicide, parce qu'au fond, les langues, vous le rappelez, c'est des choses qui sont vivantes et par conséquent qui meurent. Hein. Il y a toute une liste comme ça de langues dont j'ignorais même l'existence et dont on connaît encore moins, je suppose, à quoi elles ressemblaient, le pélage, l'étrusque, l'ibère, le gaulois, hein, qui ont disparu, l'irlandais même, hein, qui est en voie d'extinction depuis peu de temps.
Oui. L'irlandais était encore parlé par la majorité des Irlandais au 19e siècle et au moment de l'indépendance des grandes famines, etc., les Irlandais sont passés à l'anglais en masse Et bien que la volonté de l'État d'Irlande libre ait été de maintenir ou de restaurer ou d'étendre l'irlandais celte, je ne dis pas que c'est un échec, mais ce n'est pas une réussite totale, parce que spontanément, la plupart des Irlandais maintenant, même indépendants, ont recours à l'anglais. On leur inculque leur langue ancestrale, le gaélique irlandais, à l'école, au lycée, etc., mais ils l'utilisent assez peu.
Est-ce qu'on a une idée, Roland Breton, du nombre de langues qui ont survécu, autrement dit de langues parlées dans le monde aujourd'hui ?
Oui, il y a eu toutes sortes d'énumérations, de comptabilités qui ont été faites, et on oscille, suivant les critères que l'on prend, entre 6 000 et 10 000 langues. Et c'est-à-dire de parler vraiment différencié et qui ne serait pas inter-intelligible. Certainement plusieurs milliers, qui donc mériteraient le terme de langue, parce que dialecte, c'est une sous-langue, c'est une subdivision d'une langue. Mmh. Le berrichon, le poitevin, le picard, le wallon sont des dialectes.
Ça fait quand même beaucoup, parce que vous rappelez aussi qu'en même temps, il y a 100 langues d'État.
Voilà.
Bon. Et puis, à peine 10 langues internationales, voilà. Qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement les plus parlées.
Non.
Les plus parlées sont celles qui ne se parlent que dans un ou deux ou trois pays, qui sont des langues d'État de un ou deux ou trois pays. C'est le chinois, bien sûr, c'est l'hindoustani. Mais en revanche, évidemment, il y a l'anglais qui est en troisième position par le nombre des locuteurs et qui, lui, se parle dans quasiment tous les pays.
Voilà. Alors que le chinois se parle surtout certaines parties de l'Asie, l'Hindoustanie aussi, mais les langues internationales, planétaires, intercontinentales, c'est autre chose. Elles n'ont pas forcément autant de langues que les groupes compacts qui se trouvent à un endroit donné.
Mais elles sont en même temps très conquérantes, très
oui.
envahissantes.
Oui, bien
parce
sûr.
Que vous parlez de guerre des langues, vous parlez de la mort des langues, de la renaissance, on y reviendra, des langues, et vous dites qu'au fond, entre les langues, c'est une guerre perpétuelle, en quelque sorte.
Oui, c'est une guerre à plusieurs niveaux. C'est une guerre à l'intérieur des États, et aussi sur le plan géopolitique, à l'échelle des continents et du monde. Et C'est toujours un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que tout ce que gagne une langue est perdu par une autre, tout ce que perdent beaucoup de langues est gagné par une ou plusieurs autres. Donc quelquefois ça se marque par des hostilités délibérées, des actes d'antagonisme conscient, et quelquefois c'est simplement une rivalité, une compétition.
Mais est-ce que on a intérêt au fond à la gagner, ces compétitions? Je pense à une langue qui est très parlée, mais qui n'est parlée que dans un seul pays, qui est le japonais.
Ah oui.
C'est une puissance, le Japon, et pourtant sa langue n'est connue que des Japonais.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est le type de l'État unilingue achevé. Parce qu'ils n'ont qu'une toute petite minorité, ce sont les Aïnous qui sont expulsés vers le nord. Mais effectivement, c'est un cas presque exceptionnel.
Alors, puis évidemment, il y a l'anglais, donc la troisième langue parlée, qui est officielle dans 76 États, mais qui est pratiquée dans le monde entier, y compris d'ailleurs en s'introduisant dans la langue des autres grâce à leur vocabulaire. Écoutez Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville en 1994.
Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing, non, j'ai rien dit là, et l'innovation.
La promotion
du marché, enfin, bon.
La promotion.
Voyez, quand vous pensez que sur un simple fait, le design qui... Opa.
C'est officiel, c'est admis.
Ah bon?
Enfin, ça, on peut dire...
Allez-y. On peut dire quoi?
Non, la stylique.
La stylique.
Allez. Bon. Allez-y. Mais de toute façon, le design, ça existe.
Bon, alors la stylique. Quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony, japonaise, autant de... Comment dit-on? Stylique men? Oh non, pardon.
Stylicien.
De stylicien. Autant de styliciens que dans toutes les entreprises françaises réunies.
Qu'est-ce qui fait, Roland Breton, que, justement, c'était Jacques Chirac il y a quelques années, parlant le franglais, ce qu'il ne fait plus, je crois, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait qu'une langue, finalement, s'impose aux autres, y compris par des mots du vocabulaire? C'est peut-être parce que, tout simplement, les autres n'inventent pas les mots que l'on utilise, ou que l'on ne sait pas quels sont les néologismes qu'on invente à partir d'un mot comme design, par exemple.
Oui, c'est ça. On ne sait pas, on ne veut pas... on n'a pas entrepris de créer les mots qui conviennent. Il ne faut pas être trop complexé, nous, Français, parce que nous empruntons des mots aux Anglais. Les Anglais empruntent encore beaucoup plus de mots aux Français que nous, aux Anglais. Mais la volonté de certaines communautés, comme les Québécois, par exemple, a été de refuser systématiquement les mots anglais et de faire des mots français. Par exemple, il n'y a pas stop au Québec, il y a halt.
Alors, il y a aussi des gens qui ont rêvé depuis longtemps à une langue unique, hein, non pas une langue existante et imposée aux autres, mais une langue nouvelle à laquelle on a pensé dès le XVIIe siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, alors le mythe d'une langue parfaite, unique, hein, est aussi vieux que celui de la tour de Babel. Pour les anciens, il s'agissait non pas de créer une langue nouvelle, mais de retrouver la langue originelle, hein, celle qui était parlée par Adam, justement. Alors, au Moyen-Âge, de Saint-Augustin jusqu'à Dante, il ne fait pas doute qu'il s'agissait de l'hébreu. Alors, quelques siècles plus tard, on voit apparaître des théories plus nationaliste, entre guillemets. Alors, au XVIIe siècle, un Allemand, un certain Harsdorfer, affirme sans rire, le premier homme, Adam, ne put se servir que de nos vocables allemands pour nommer les animaux de la terre, parce que la nature parle notre langage allemand.
Où le nationalisme va-t-il se
Oui. Alors, au XVIIIe, hein, l'anglais Roland Jones assure au contraire, aucun langage que l'anglais ne se montre plus proche du premier langage universel. Il faut dire qu'à cette époque, la question n'est plus tellement de savoir quelle langue parlaient Adam et Ève que de savoir comment les hommes du monde entier vont communiquer avec le développement des échanges. Alors pourquoi pas alors donc créer une langue nouvelle ? Descartes, par exemple, rêve d'une langue accessible à tous pour philosopher. « Ce ne sera pas merveille, dit-il, que les esprits vulgaires apprennent en moins de 6 heures à composer en cette langue avec l'aide du dictionnaire. » De même, le philosophe allemand Leibniz imagine une langue que, dit-il, on pourra apprendre en peu de semaines et qui aura bientôt cours parmi tout le monde. Et puis, il y a ceux qui, au nom de la paix, élaborent de véritables projets de langue universelle avec alphabet et grammaire. L'espéranto, inventé en 1880 par l'allemand Zamenhof, bon, c'est le plus connu. Chacun, dit-il, devrait employer une langue neutre, toute tentative d'imposer à d'autres ses propres langues et religions étant un acte de barbarie. Mais il y en a eu des centaines d'autres au XIXe siècle, des projets comme ça, par exemple le sol ré sol, inventé par Jean Sudre, ou encore le célèbre Volapük, immortalisé par De Gaulle, mais inventé par un prêtre allemand, Schleyer. Alors pourtant, l'idée d'une langue parfaite, unique, a toujours eu des contradicteurs. Le poète italien Leopardi, par exemple, « Une langue strictement universelle ne peut être, dit-il, qu'une langue pauvre, timide, sèche et laide, un squelette, une langue sans vie. » Et au XXe siècle, l'écrivain George Orwell a montré la puissance totalitaire que peut avoir l'idée même d'une langue nouvelle faisant table rase du passé. Dans son roman 1984, sous le règne de Big Brother, on a épuré le langage et créé une nouvelle langue, le Novlang. L'appauvrissement du vocabulaire, écrit Orwell, était considéré là comme une fin en soi. Le Novlang était destiné non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée.
Pourquoi est-ce que, Roland Breton, pourquoi est-ce que les tentatives, justement, d'inventer une langue nouvelle, l'espéranto, le volapük, le sol ré sol,
c'est le sol ré sol, oui, c'est une langue qu'on pouvait parler, qu'en même temps on pouvait jouer avec un instrument de musique ou chanter.
Pourquoi ça a échoué? Est-ce que c'est à cause, justement, de la méfiance, par exemple, d'Orwell, qui voyait là une entreprise totalitaire?
Je ne crois pas que ça ait échoué pour ça, par une méfiance, une hostilité, mais parce que le fait de répandre une langue, d'utiliser une langue, est quelque chose de spontané. Et là, il faudrait, moi j'aime beaucoup les espérantistes et cette tentative, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Et en fait, l'expérience a prouvé que non, c'est pas le cas. La plupart des gens préfèrent apprendre la langue de leur voisin ou la langue qui domine le monde ou n'importe quoi d'autre, que forcément l'espéranto, bien que l'espéranto ait, je l'ai montré dans mon livre quand même, des millions de gens qui sont fidèles.
Ou apprendre aussi des langues émergentes, parce que on apprend dans votre livre qu'il y a des langues qui meurent, il y a des langues qui envahissent les autres, il y en a aussi qui renaissent, le catalan, le basque, le breton, le swahili, le quechua, en Amérique latine. Quelle est la durée de vie d'une langue? C'est plutôt court d'ailleurs à vous lire au regard de l'histoire.
La durée d'une vie, d'une langue qui évolue par elle-même, et généralement de 10 siècles, et guère plus. Et celles qui se sont...
Vous citez quelques cas quand même rares langues qui ont duré 2000 ans. Le chinois, par exemple, le sanskrit.
Oui, le sanskrit, l'iranien, etc. Mais il faut dire aussi que à travers cette longue évolution, il y a eu plusieurs formes successives de langues qui ne sont pas intercompréhensibles. Le vieux chinois, le vieux perse, le sanskrit ne sont pas audible, intelligible par les descendants des enfants qui les parlaient. On reconnaît, c'est très simple, on reconnaît très bien la filiation, mais c'est pas tout à fait la même langue quand même.
Un dernier mot, Roland Breton, qu'est-ce qui permet à une langue de durer longtemps? Est-ce que c'est parce qu'elle se maintient en l'état ou c'est parce qu'elle évolue?
Oui, c'est parce qu'elle évolue. Et parce que, quand même, elle a une base humaine et une aire territoriale qui n'a pas été trop perturbée, chahutée, ravagée, envahie, etc. Il y a à la fois un phénomène de continuité des usages et de tranquillité de la collectivité en question.
Merci Roland Breton. Alors pour en savoir plus justement sur les langues et le langage même à ses origines, je recommande la lecture de deux livres. L'un dont vous êtes l'auteur avec Christina Mazoyer qui s'appelle L'Atlas des langues du monde et qui vient d'être publié chez Autrement. Et puis Du langage aux langues que vous avez coécrit avec Ranka Bijedlak, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. Et puis il y a également La géographie des langues, publiée aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Bible de John Huston et Saint-Cyr de Patricia Mazui, tous deux disponibles en cassette vidéo. Puis vous avez également entendu un extrait des Nuits magnétiques de France Culture en 1992 et au tout début de l'émission, justement, la voix d'Adrien qui a aujourd'hui, je crois, 14 ans à peu près. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Étienne Michka, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Émilie Trassante, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Dominique Costa.
Une émission de Patrice Gélinet.
Le programme de la semaine prochaine, lundi, un des plus célèbres récits de l'histoire, les 1001 nuits. Mardi, une entreprise dont on parle beaucoup en ce moment, Air France, qui fêtera ce jour-là son 70e anniversaire. Mercredi, les intellectuels. Enfin, jeudi et vendredi, un homme et une femme qui sont morts le même jour, à quelques heures d'intervalle. Jeudi, nous parlerons de Jean Cocteau et vendredi, Édith Piaf. Bonne fin de semaine à tous. Il est 14h30 sur France Inter et je vous laisse en compagnie de Chris.
Merci.